Cette invitation bouleversa le jeune homme. Il avait jeté ses billets de banque sur la table dans un noble mouvement de générosité et, au lieu que tout le monde se confondît en remerciements et en reconnaissance, on se prévalait de son geste pour l'interroger. Une profonde amertume envahit Arnold. C'était donc à de telles mesquineries qu'aboutissaient toujours les nobles élans de son âme. Quelle fatalité pesait sur lui pour que, quoi qu'il fît, tout se retourna continuellement contre lui. Le cœur débordant de rancœur, il dit « C'est bien, je comprends. Rendez-moi cet argent et je m'en irai. Je me suis trompé. J'ai cru que mon acte vous toucherait, mais je me suis lourdement trompé. Oui, j'ai fait fausse route. Je n'ai écouté que mon cœur. C'est mon seul tort. Rendez-moi l'argent et plus jamais, je vous le promets, vous n'entendrez parler de moi. » « Comment, s'exclama l'homme, tu voudrais qu'on te rende cet argent que tu as volé je ne sais où? Mais tu n'as pas honte? Il va falloir d'abord que tu nous en dises la provenance, entends-tu? Si tu t'y refuses, eh bien, tant pis pour toi. Nous ne voulons plus avoir avec toi le moindre rapport. Quant à l'argent, inutile de te dire que nous le gardons. » « Ça, c'est un peu fort, » répondit Arnold, qui, malgré le crime dont il s'était rendu coupable, était encore plein de candeur. « Vous refusez de me rendre cet argent ?»« Il n'est pas à toi. »« Il n'est pas à moi. » Arnold sentait la colère lui monter à la tête. Sous le coup de cette insolence, il avait perdu de vue qu'il était un assassin, qu'il fuyait la police, qu'il avait simplement voulu, par cet acte bizarre, s'assurer des témoignages favorables pour l'avenir. Il n'était plus qu'un homme en lutte contre ce qu'il croit être une injustice. « Vous allez me rendre cet argent ? » cria-t-il. « Vous m'entendez ? Sinon, j'appelle au secours, j'ameute les passants. » Le fait d'être dans son droit lui avait un peu fait perdre son sang-froid. Il lui était agréable, tellement sa conscience était chargée d'autre part, d'avoir l'occasion d'élever la voix. En cette circonstance, il lui semblait que tout le monde prendrait fait et cause pour lui, et cette perspective, dans le délabrement moral où il se trouvait, lui ôtait toute prudence. « Vous comprenez bien, continua-t-il, que je ne vais pas me laisser faire. Ce serait trop facile. Vous me dépouillez, et vous voudriez que je me taise, que je m'en aille et que je ne réclame rien. Non et non, vous allez me rendre immédiatement cet argent. » « Quel argent ? » demanda une des femmes qui, en feignant n'avoir rien vu, croyait ainsi servir les intérêts de celui qui l'avait empoché. « Je vous en prie, cette comédie a assez duré. »« Quelle comédie ? » répliqua la femme sur le même ton. Cette fois, la colère d'Arnold ne connut plus de bornes. La sueur coulait sur son visage blême. Le sentiment qu'il aurait le monde entier pour lui le transportait d'allégresse et lui faisait perdre le sens et la mesure. « C'est bien, » dit-il avec un calme subit. « Nous allons voir. Je vais aller chercher un sergent de ville. » Cette menace, sans doute parce que le groupe croyait qu'elle ne serait jamais mise à exécution, les laissa tous indifférents. Le fort des Halles prit cependant la parole. « C'est ce que tu as de mieux à faire. Cela évitera un dérangement. Je me demande même pourquoi tu as attendu si longtemps. » Dignement, Arnold sortit. Durant une seconde, il eut bien l'impression qu'il courait un certain risque, mais puisque, un jour ou l'autre, il faudrait qu'il se rendît, ne valait-il pas mieux prendre ainsi contact avec la police? Dans sa naïveté, il s'imaginait que les fautes d'autrui diminuaient les siennes et que, quoi qu'il pût advenir de fâcheux par la suite, dès qu'on aborderait son crime, on serait quand même obligé de convenir que, s'il avait la conscience lourde, d'autres l'avaient également. Sur le pas de la porte, cependant qu'on invectivait contre lui, il prit calmement le numéro de la maison, puis il s'éloigna en quête d'un sergent de ville. Au premier qu'il rencontra, il s'adressa en ces termes. « Monsieur, je viens d'être victime d'un vol. »« Qu'est-ce que vous voulez dire ? » demanda l'agent. « Vous ne comprenez pas ? » fit avec hauteur notre héros. « Je vous dis que je viens d'être victime d'un vol. »« Oui, moi. » Dans un élan de générosité, j'ai donné tout ce que je possédais à des gens que je supposais être dans la peine. Au lieu de me remercier, ils ont commencé par se moquer de moi, pour finir par me poser des questions indiscrètes. Ils ont eu l'air de dire que j'avais volé cet argent. Alors, je leur ai demandé de me rendre cet argent. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont insulté. Je vous prie de m'accompagner auprès d'eux. Mais, fit l'agent, vous leur aviez donné cet argent. Parfaitement, mais ils n'ont pas voulu l'accepter sous prétexte qu'il était volé. Et quand je leur ai demandé de me le rendre, ils n'ont pas voulu. Étrange votre histoire, remarqua l'agent. Nous allons voir cela. Pourquoi étrange? Il n'y a rien de plus simple. Étrange, je vous dis. Pourquoi étrange, encore une fois? Venez, nous allons voir. Les deux hommes se rendirent au petit café. Entre-temps, le groupe s'était concerté. Il n'avait plus été question entre eux que du service qu'ils rendaient à la société en confisquant cette somme. Aussi, à la vue du sergent de ville, éprouvèrent-ils tous cette joie qu'affichent deux parties en conflit à l'arrivée d'un arbitre. D'ailleurs, au bon accueil qu'ils réservèrent aux représentants de l'autorité, à leur satisfaction de le voir parmi eux, il était visible qu'ils s'appliquaient à lui laisser entendre que c'était bien d'arbitrage qu'il s'agissait. Eussent-ils manifesté si bruyamment leur contentement s'il s'était agi d'autre chose? Arnold, cependant, troubla la fête. « C'est celui-ci, » dit-il en désignant le fort des Halles. Mais l'agent n'était pas du tout disposé à prendre parti. Il portait la main à son ceinturon, puis à son képi, enfin à tout ce qu'il n'était pas habitué de porter dans l'intimité, à seule fin de bien se pénétrer de son rôle. Il savait que, plus il marquerait la difficulté de se faire une opinion, plus longtemps il garderait son prestige. Pourtant, à des petits riens, il était visible que son cœur inclinait vers le nombre. À l'apostrophe d'Arnold, le fort des Halles répondit par un haussement d'épaule qui signifiait que le problème n'était pas aussi simple et qu'il avait beaucoup à dire. Mais le jeune homme ne l'entendait pas ainsi. Il avait conscience d'être victime d'une sorte d'escroquerie et la mauvaise foi de ses interlocuteurs lui donnait une ardeur d'autant plus grande qu'il avait complètement perdu de vue des faits autrement graves. En réalité, s'il se plaignait, s'il se lamentait, il n'en était pas moins vrai qu'il éprouvait une certaine joie. Ah, comme il aurait souhaité qu'au lieu de discuter, ces inconnus se fussent précipités sur lui, l'eussent à demi tué. Comme il aurait aimé à être victime d'un attentat odieux, d'actes de violence, d'injustice encore plus grandes. Que ses fautes à lui eussent semblé petites alors. Et si les circonstances avaient attiré l'attention sur elle, on ne leur eût certes pas accordé une grande importance, tellement le mal qu'il avait fait eût semblé peu de chose à côté de celui qu'on venait de lui faire. « Monsieur l'agent, continua-t-il, cet homme a pris mon argent et ne veut pas me le rendre. » Le sergent de ville ne s'expliquait pas très bien ce qui s'était passé. Il avait l'impression qu'Arnold était un personnage louche, mais, d'autre part, il était évident, à moins d'avoir affaire à un fou, qu'il avait été victime de quelque chose. Il demanda donc aux deux hommes de l'accompagner au poste et de régler leurs différends devant le commissaire lui-même, plus apte que moi, précisa l'agent, à démêler ces sortes d'affaires. Les parents et les amis du fort des Halles résolurent naturellement d'accompagner ce dernier. Quant à Arnold, chose étrange, il fut enchanté de cette proposition. Il n'ignorait pourtant pas que son signalement avait été transmis dans toute la France, qu'on le recherchait nuit et jour, qu'il était représenté comme un individu dangereux. Mais c'est un fait que ceux qui vivent en marge de la société, sans fortune, sans amitié, le jour où les rôles sont renversés, ne peuvent résister au plaisir d'imiter ceux qu'ils ont le plus détestés. Quoiqu'il ne voulût rien en laisser paraître, Arnold avait beaucoup souffert de son déclassement, de son désœuvrement. Aussi, à la suite de l'injustice que nous venons de rapporter, avait-il pris de l'assurance. Pour une fois, il avait l'occasion de faire valoir ses droits et de conquérir l'estime des honnêtes gens. Un tel retournement de situation ne pouvait manquer de l'enivrer. Il y avait bien une ombre à son bonheur, celle que projetait le souvenir de son crime. Mais il la chassait avec d'autant plus de facilité qu'il avait sur la responsabilité des idées fausses. Nous avons dit qu'il était jeune et naïf. En effet, il ne pouvait croire que le même homme pouvait être à la fois victime et bourreau. Dans sa nouvelle situation de victime, il avait la certitude que personne n'oserait seulement le soupçonner de quoi que ce fût. Il était le plaignant. On aurait en conséquence, pour lui, tous les égards que l'on doit à ceux qui ont été trompés ou volés par autrui. Et si le souvenir de son crime venait parfois à son esprit, c'était comme celui d'une faute de jeunesse, si lointaine qu'elle semble avoir été commise par un autre. Comme personne pourtant ne bougeait, l'agent pria de nouveau les deux hommes de le suivre. Le Fordéal objecta d'abord qu'il avait autre chose à faire que de perdre son temps. Il fit même valoir, pour n'avoir pas à se déranger, que sa sœur venait de perdre son mari et qu'on devait respecter leur douleur. L'agent insistant toujours, il eut alors cet air des gens que l'on oblige à des corvées dans l'intérêt général. C'est-à-dire qu'il parut consentir à venir parce qu'il le fallait, mais qu'enfin il ne voyait pas pourquoi on s'adressait à lui plutôt qu'à d'autres. Finalement, le groupe tout entier se décida à suivre l'agent. Arnold marchait en queue pour éviter, car comme nous l'avons dit, il était jeune, qu'on lui faussât compagnie. Et lorsque le sergent de ville se retournait pour s'assurer que ce n'était pas lui qui cherchait à s'esquiver, se méprenant sur ce regard, il faisait comprendre par un geste que tout était en ordre. Et c'était un spectacle à la fois tragique et comique que celui que donnait ce jeune homme qui, recherché par la police, veillait à ce que personne ne s'éclipsât. Bientôt, tout le monde se trouva au commissariat. Arnold avait conservé toute son assurance. Il souriait étrangement. Son visage, pourtant, était grave. L'on y découvrait cet entêtement que l'on remarque chez ceux qui, sans la moindre gêne, écartent tout ce qui peut les confondre pour ne s'en tenir qu'au point sur lequel ils ont raison. Alors que son entourage donnait des signes de mauvaise humeur, il demeurait calme. Comme une idée fixe, l'injustice dont il avait été victime l'empêchait de songer à quoi que ce fût d'autre. Il était si sûr de lui que c'était avec une aisance inattendue qu'il se mouvait. Il s'arrêtait parfois pour lire un avis quelconque affiché au mur. Ainsi que le nouveau ministre qui, par respect des traditions, rend quelques visites à certains fonctionnaires qui, dès qu'il aura pris possession du pouvoir, deviendront ses subordonnés, Arnold ne s'asseyait pas dans la salle d'attente. Quant à la famille en deuil, il était amusant de l'observer. Dans ce lieu, qui était censé être le siège de la force et de l'ordre, elle était le nombre. Aussi, en même temps qu'elle remarquait cette anomalie, éprouvait-elle l'étrange sentiment d'être, en dépit de cet avantage, la plus faible. Il n'y avait que deux agents qui somnolaient sur un banc et cette famille qui se composait de quatre membres. Le déséquilibre qui ressortait de cette situation se trahissait dans leurs attitudes. Ils parlaient fort, se donnaient de l'importance, mais une porte s'ouvrait-elle pour laisser paraître un agent en veste déboutonnée et à demi endormi, qu'il se taisait instantanément. Ce ne fut qu'après une demi-heure d'attente que le Fordéal et Arnold furent introduits dans le bureau du commissaire. Celui-ci était un homme d'une cinquantaine d'années, mais s'efforçant à paraître jeune. Il était visible que sa principale préoccupation était de donner l'impression qu'il exerçait sa profession par dilettantisme. Les agents avaient pour lui des égards différents de ceux qu'on est habitué à voir chez des fonctionnaires. L'un d'eux lui apporta un coussin. Un autre vida son cendrier. Un autre encore posa sur le bureau un verre d'argent et une carafe d'eau, puis, avant de se retirer, entr'ouvrit la fenêtre d'une manière qui avait été sans doute expliquée par le commissaire il y avait longtemps, et cela une fois pour toutes. Après avoir allumé avec amour une cigarette dont il regarda longuement la marque dès qu'il eut aspiré voluptueusement la première bouffée, le commissaire ouvrit la bouche et, durant quelques secondes, attendit que la fumée s'échappât d'elle-même. Puis il contempla, avec une attention profonde, les deux hommes, celle de ces êtres supérieurs qui n'ont point besoin d'entendre parler pour se faire une opinion. Cet examen n'avait pourtant aucun témoin capable d'apprécier une telle intelligence. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il avec douceur. Le Fordéal, d'un esprit assez simple, croyait qu'en de telles circonstances, il fallait toujours parler le premier. Avant même qu'Arnold eût eu le temps de prononcer un mot, Il raconta en détail la scène du petit café, insistant sur le fait que n'importe quel honnête homme eût agi comme lui, parce que l'argent que le jeune homme avait jeté si généreusement sur la table était de l'argent volé. Le commissaire lui fit remarquer qu'un tel soupçon n'était pas une raison suffisante pour le confisquer et qu'il eût mieux valu qu'il appelât alors un sergent de ville. « C'était ma ferme résolution, » répondit le Fordéal. Pourtant, en traînant en longueur comme vous l'avez fait, il semble que vous vouliez plutôt vous approprier cette somme. » Le Fordéal jura qu'une intention semblable ne l'avait jamais effleurée. Arnold, jusqu'à ce moment, n'avait pas desserré les lèvres. Il avait senti chez le commissaire une certaine sympathie à son égard et il avait trouvé habile de la mériter davantage en s'en remettant complètement à l'esprit de justice de ce dernier. « Voulez-vous me rendre cet argent ?» dit le commissaire. Après un temps d'hésitation, le Fordéal obéit en maugréant. Dès qu'il fut en possession des billets, le commissaire continua sur le même ton, s'adressant cette fois à Arnold. « Il est tout naturel que je vous remette votre bien. Pourtant, vous comprendrez qu'il est naturel également que je vous demande la provenance de cette somme. » Arnold ne se démonta pas le moins du monde. « C'est ma mère qui me l'a donnée ce soir même, » répondit-il. « Ah, bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Et où habite votre mère ?» Notre héros donna l'adresse. Le commissaire la nota sur un coin de son buvard comme une chose insignifiante. Puis il se leva. « Vous pouvez vous retirer, messieurs. » Les deux hommes obéirent. Le Fordéal était dans un état de fureur indescriptible, mais il le dissimula à ses parents, à qui il voulait laisser croire qu'il avait eu le beau rôle. Arnold, très digne, s'apprêtait à sortir lorsqu'un agent l'appela. « Le chef voudrait avoir un petit entretien avec vous. » Toujours avec le même sang-froid, le jeune homme revint sur ses pas. Cette fois, le commissaire avait quitté son bureau. Il marchait de long en large, avec l'air soucieux de quelqu'un qui a une question désagréable à poser. « Asseyez-vous, jeune homme, » dit-il tout de suite, « je voudrais faire plus amplement votre connaissance. Vous avez bien le temps, j'espère. »« Mais certainement. » « Je me suis demandé, après votre départ, à quel mobile vous avez pu obéir en donnant cet argent à des gens qui ne semblent pas être du même milieu que vous et que vous ne connaissiez pas le moins du monde, d'autant plus, et excusez-moi si je me permets de vous faire cette observation, que vous ne paraissez pas dans un état de fortune qui puisse vous permettre de telles fantaisies. » Arnold ne put cacher son embarras. « Je n'ai pas très bien compris ce que vous voulez dire, » fit-il. Le commissaire répéta ses paroles en les développant. Cette fois, Arnold ne put recourir au même prétexte pour ne pas répondre. « J'ai voulu, dit-il, faire quelque chose de beau dans ma vie. Évidemment, je me rends très bien compte que cela peut paraître bizarre et j'admets volontiers qu'on puisse avoir des doutes sur la véracité de mon explication. Comment demander qu'un étranger comprenne un acte qu'on est seul au monde capable de comprendre ? Nous jugeons nos semblables d'après nous-mêmes. Comment demander alors, à qui l'idée de faire ce que j'ai fait n'est même jamais venue, de me comprendre ? On me dirait, monsieur le commissaire, que chaque matin vous avalez une cuillerée de sable, que je serais surpris de la même manière que vous devez l'être en ce moment. Pourtant, ce serait possible. Par je ne sais quel raisonnement, vous auriez pu être amené à penser qu'il y a quelques vertus magiques et curatives dans le sable. « Vous me prenez, jeune homme, sans doute pour un enfant. Je n'ai pas songé une seconde que les raisons que vous m'avez données de votre acte de générosité, si bizarres soient-elles, puissent être invraisemblables. J'ai simplement voulu savoir quelles elles étaient, car vous conviendrez avec moi qu'il pouvait y en avoir d'autres. Donc j'admets avec vous que vous avez agi ainsi par besoin de faire une belle chose. En cela, je dois vous dire que j'admire votre désir. » Pourtant, me permettant encore de vous importuner, je prendrai la liberté de vous faire remarquer qu'il doit y avoir une cause à la raison que vous m'avez donnée et que, sans doute, c'était pour apaiser votre conscience que vous avez agi ainsi. Est-ce vrai ? Arnold était séduit par la douceur, l'intelligence, la profonde compréhension du commissaire. Il lui était agréable de se trouver enfin en présence d'un homme qui s'intéressait avec tant de bienveillance au détour de son esprit. Pourtant, il ne répondit pas tout de suite. Le commissaire continua. « Il n'est point d'homme qui n'ait éprouvé le besoin, au moins une fois dans leur vie, d'équilibrer la balance du bien et du mal, sinon même de faire pencher le plateau de celui-là. Au plus fort du mal que nous faisons, brille la pensée qu'il est en quelque sorte excusable par celui qui nous a été fait, car tous nous croyons être bons devant Dieu. Si nous sommes méchants, si nous avons mal agi, ce n'est que vis-à-vis des hommes. Vous-même, j'en suis certain, et ce n'est pas un reproche, vous avez fait comme moi, comme tout le monde, des choses laides. Vous avez fait souffrir des êtres plus faibles que vous, vous avez voulu, au détriment de vos semblables, que votre vie fût agréable, heureuse, sans songer que le mal vient justement de ce que tous ont ce même désir. Plus tard, quand vous aurez mon âge, vous comprendrez à quel point vous avez été insensé. » Notre héros était de plus en plus ému par ce langage, et, fait étrange, ces mots « Plus tard, quand vous aurez mon âge », lui avaient fait un bien immense. Il vivrait donc. Le commissaire de police lui-même n'envisageait pas qu'il pût en être autrement. « En effet, répondit le jeune homme, je n'ai pas toujours fait ce que j'aurais dû, et aujourd'hui je le regrette amèrement. »« Qu'avez-vous donc fait ? » demanda son interlocuteur, en dissimulant sa curiosité sous un air enjoué. « Vous pouvez tout me dire, nous parlons un ami. Oh, croyez-moi, je devine beaucoup de choses. J'ai l'habitude des hommes et mon expérience est assez grande pour que je distingue ceux qui méritent de l'intérêt des autres. Si je n'avais pour vous une réelle sympathie, je ne perdrais pas mon temps à vous interroger. Mais j'aime avoir chez un enfant, car vous n'êtes qu'un enfant, des qualités morales comme celles que vous venez de montrer. » J'ai un fils, voyez-vous, qui a votre âge. Ce garçon m'a causé beaucoup de soucis, et pourtant je l'aime et j'ai foi en lui. Aussi, en vous parlant, il m'est doux de penser que les erreurs de mon fils ne sont pas les siennes, mais celles de la jeunesse. » Le commissaire s'assit derrière son bureau, alluma une autre cigarette, regarda tristement le jeune homme. Ce dernier était ému. « Que la vie est drôle, pensait-il, c'est justement de ceux qu'on attend le moins qu'on reçoit le plus. » Dans sa détresse, il éprouvait un immense soulagement. L'homme qu'il avait le plus redouté, c'était justement celui qui lui témoignait la plus sincère sympathie. « Vous trouvez, demanda-t-il, que je ne suis pas aussi méprisable que je le pensais ?»« Non, répondit le commissaire, vous êtes seulement à plaindre d'avoir été livré à vous-même alors que vous n'étiez encore qu'un enfant. » « Merci, merci, balbutia Arnold. Vous êtes d'une trop grande bonté pour moi. Si vous saviez comme ma reconnaissance est grande. Voulez-vous une cigarette ?» Arnold accepta. Lorsqu'il l'eut allumée, le commissaire continua avec douceur. « Jeune homme, regardez-moi. C'est cela. Eh bien, maintenant, dites tout. Je vous écouterai comme le père que vous n'avez plus. » « Mais comment savez-vous que je n'ai plus de père ?» demanda Arnold surpris. « Parce que je l'ai deviné. Il n'y a que les enfants qui ont perdu leur père qui se confient avec tant de franchise, de naïveté à un homme. Allons parler et dites-moi tout. Je sais que vous avez besoin de parler, de soulager votre conscience. Après, vous vous sentirez libre, heureux, neuf. » « Oh, ne croyez pas que c'est par devoir professionnel que je vous engage à avouer. C'est par amitié. Vous êtes seul au monde, mais oui, et moi, malgré ma famille, mes amis, je suis comme vous, seul au monde également. Nous sommes tous des isolés. À un moment, pourtant, nous pouvons cesser de l'être. Savez-vous à quel moment ?»« Non, répondit Arnold qui n'écoutait pas. Au moment où deux êtres comme nous, deux êtres conscients de leur solitude se rencontrent. De leur détresse commune naît le réconfort. Et, voyez-vous, c'est l'espoir d'une telle rencontre, uniquement cela, qui m'a amené à exercer cette profession. Elle seule, ai-je pensé, pouvait m'apporter quelque soulagement. Au milieu de ces misérables destinées qui, quotidiennement, défilent devant moi, je découvrirai peut-être un jour celui ou celle qui me comprendra. « Oh, croyez-moi, jeune homme, quelque crime que vous ayez commis, je vous pardonne. Et vous aimeriez savoir pourquoi ? Parce que ce crime fait de vous un homme aussi seul que moi. Tous les gens honnêtes et respectables que je fréquente, qui sont ou mes parents ou mes amis, vivent comme si la vie n'était que celle qu'elle est lorsque nous n'y pensons pas. Aussi sceptiques puissent-ils désirer paraître, ils croient à l'ordre établi, ils croient à l'amitié. » Mais que sont-ils prêts à donner? Rien de plus qu'ils ne sont prêts à accepter. Par contre, celui qui a commis un crime est seul parce que tout le monde le fuit. C'est pourquoi j'éprouve pour lui un sentiment voisin de la tendresse. » Bien qu'il n'eût pas très bien compris ce langage, Arnold s'était laissé gagner par la voix chaude du commissaire. Il avait confusément l'impression que, pour prononcer de telles paroles, il fallait avoir une âme belle et pure. C'est le propre des jeunes gens de se livrer dès qu'on a gagné leur confiance. Comment se méfier d'un homme, fut-il commissaire de police, après de telles paroles? Pourtant, une force obscure retenait encore Arnold. Soit qu'il s'en fût aperçu et qu'il voulût la vainquer par ce stratagème, soit qu'il éprouva réellement le besoin de s'épancher, le commissaire continua. « Vous me voyez devant vous, jeune homme, occupant une importante fonction publique. J'ai la considération de tous, l'amour de ma famille, le respect de mes subordonnés, l'estime de mes chefs. Que peut désirer de plus un imbécile? Rien, n'est-ce pas? Je suis donc heureux. Ma vie se déroule avec une monotonie qui dresse entre le monde et moi une barrière infranchissable. Rien de fâcheux ne peut m'arriver. Si ma femme venait à mourir, ce malheur nous atteindrait plusieurs. Elle a un frère, une sœur. Nous la conduirions au caveau familial. Cette disparition ne serait qu'un coup du sort. Est-ce que vous me comprenez? Nous autres, bourgeois, nous sommes les seuls modestes, les seuls humbles. Seuls, nous avons conscience de la fragilité de la vie. Et quand la mort s'empare d'un être que nous aimons, nous nous inclinons, car que pourrions-nous faire d'autre? Nous nous inclinons et l'oubli vient. Pourtant, à certains moments, nous aimerions à sortir de notre existence misérable et à respirer le grand air. Nous aimerions à n'avoir ni famille ni fonction, mais une femme dont nous ne pourrions nous passer, une femme belle, jeune, intelligente, et chanter si nous aimons chanter, et penser si nous aimons penser, et travailler comme nous aimons travailler. Croyez-vous que l'enfant qui naquit il y a 47 ans d'une mère qui, elle-même, naquit 24 ans avant, croyez-vous que la destinée de cet enfant était de devenir commissaire de police? Et aujourd'hui, sa femme, ses chefs, ses subordonnés voudraient qu'il se prît au sérieux? C'est à mourir de rire. Arnold écoutait ses doléances avec ravissement. Le ton lui plaisait, le ton amer, triste et confidentiel. N'y avait-il pas de quoi combler de joie un criminel? Un chef de la police se confessait donc à lui? Pour rien au monde, notre jeune homme n'eût interrompu son interlocuteur. Il compatissait aux peines de ce dernier, ou plutôt à ce qu'il supposait être des peines. Il remplissait avec sérieux le rôle imprévu de confident. Il en était fier. Mais comme il ne se sentait pas capable de trouver les mots que le commissaire devait certainement attendre de lui, il se contentait de hocher la tête en signe d'approbation. Monsieur Bugeaud, ainsi se nommait le commissaire de police du premier arrondissement, se rendait-il compte de cette incompréhension? Il est à croire que oui, car de temps à autre, il s'interrompait pour demander à Arnold s'il le suivait bien, à quoi celui-ci, tout à sa joie, répondait par le même hochement de tête. Le commissaire paraissait alors se contenter de cet acquiescement, mais un observateur eût discerné, à la rapidité avec laquelle ce simple signe le satisfaisait, qu'il n'était pas dupe. « Vous comprenez maintenant ce qu'il y a de tragique dans ma situation. » Arnold ne discernait pas en quoi cette situation était tragique, mais cela avait été affirmé avec tant de conviction qu'il n'en doutait pas. Il se trouvait d'ailleurs dans un tel état d'abattement que le commissaire lui eût fait part, sur le même ton, du plus heureux des événements, qu'il n'eût pas songé davantage à se dérider. « Au fait, poursuivit le commissaire, je ne vois pas pourquoi je vous parle de moi. Cela ne vous intéresse certainement pas. Quand on a votre âge, ce n'est guère qu'à soi-même qu'on prête attention. Et vous, vous devez également avoir vos peines ?»«
Oui, j'ai mes peines, » répondit notre héros, sans cacher le plaisir que lui faisait cette question.
« Et quelles sont-elles ? » demanda négligemment M. Bugeaud.
« Cela m'est difficile à dire. »«
Pourquoi donc ? » ?»«
Vous ne les comprendriez pas. »«
Comment pouvez-vous dire cela, mon jeune ami ? » ?»«
La jeunesse est votre excuse. » »«
Non, vous ne les comprendriez pas. » »«
Vous vous imaginez peut-être que je n'ai pas de cœur. » »«
Ah, comme vous me connaissez peu ! » !»« J'ai beaucoup souffert. Il y a des complications que vous ne soupçonnez pas. » et qui, dans le cœur des hommes assoiffés de paix, apporte le désarroi. À un tel homme, vous pouvez vous confier comme à un père. Vous pouvez tout lui dire, décharger votre conscience. Il vous comprendra. »
Ce langage toucha Arnold.
Ah, comme il eût voulu n'avoir commis que des vétilles pour être libre de s'épancher dans le sein de cet homme bon et généreux. Mais, chargé du crime qu'il avait commis, il ne pouvait faire autrement que de demeurer silencieux. D'ailleurs, malgré la bonne impression que lui faisait le commissaire, un fond de prudence le retenait. Il avait entendu dire que les policiers usaient de mille moyens pour soutirer des aveux, et parmi ceux-là, la douceur devait être un des plus éprouvés. Jusqu'à quel point M. Bugeaud était-il sincère ? Arnold l'observait, mais, en dépit de ses doutes, sa confiance grandissait.
« Vous semblez avoir peur de moi, » continua le commissaire. « Vous semblez croire que je suis l'esclave de mes fonctions. »«
Comme vous vous trompez !»«
Comme vous me connaissez peu !»«
Il faudrait que je n'eusse que l'ombre d'une conscience pour jouer la comédie que vous supposez, pour simuler de vous parler avec tant de franchise, à seule fin de vous arracher je ne sais quel aveu. »«
Non, je ne suis pas capable de cela. »
Vous n'êtes pas dans le bureau du commissaire de police du premier arrondissement, mais dans un lieu anonyme, en face d'un homme qui vous comprend et qui vous aime, parce qu'il vous ressemble.
Oui, je vous ressemble et je m'en vante.
Un de mes chefs entrerait dans ce bureau à cette minute que je continuerais à l'affirmer.
Que voulez-vous dire ?
Je veux dire qu'aussi chargée que puisse être votre conscience, elle ne l'est certainement pas autant que la mienne.
« Allez-y, abandonnez-vous. Vous pouvez m'avouer ce que je devine déjà. »«
Que devinez-vous ? » ?»«
Bien des choses, et c'est justement à cause d'elles que j'ai pour vous une si profonde sympathie. Je ne suis pas de ces hommes que la profession change et qui finissent par porter sur toute chose un regard obscurci par le désir de l'avancement. En entrant dans l'administration, je me suis efforcé de rester le même, de conserver ce qu'il peut y avoir d'original en moi. Et lorsque, comme aujourd'hui, les circonstances me mettent en présence d'un inconnu, en qui je découvre une âme belle et noble, je me souviens du peu de choses que je suis sur cette terre, et je n'aspire plus qu'à m'approcher de cette âme. Vous avez commis un crime, mais... » Le commissaire n'eut pas le temps d'achever. Arnold s'était dressé d'un bond.
« Que voulez-vous dire ? » cria-t-il.
« Rien ? » Rien qui puisse vous offenser. »
Notre héros était pâle, ses mains tremblaient. Brusquement, comme si un malheur l'avait dégrisé, il venait de réaliser qu'il se trouvait dans le bureau d'un commissaire de police. N'allait-il pas être arrêté ? La frayeur faisait battre ses paupières. Une seconde, la pensée de se sauver comme un fou, de profiter des dernières gentillesses de M. Bugeaud pour s'éclipser avant que ce dernier changeât, traversa son esprit. Mais en même temps, il lui apparut que, peut-être, il se trompait et qu'en essayant de prendre la fuite, il allait, si le commissaire était vraiment bien disposé à son égard, le contraindre à faire son devoir. Ne valait-il pas mieux, avant de se découvrir, attendre encore un peu ? Un dilemme se présentait au jeune homme. Une voie était la bonne, mais laquelle ? Sans abandonner sa première intention, il observa son interlocuteur. Si son salut n'était que dans la fuite, celle-ci en serait facilitée s'il trouvait la force de paraître ne même pas y songer.